Bonsoir à tous. Donc, la Bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir ce soir pour cette 5e conférence, si je ne me trompe, 5e table ronde du cycle Religion, des mots pour les comprendre, cycle sur lequel nous travaillons avec Philippe Godin à l'extrême gauche de cette table ronde ce soir, qui nous fait l'amitié de venir. Il y a un changement dans la table ronde de ce soir. Malheureusement, Géraldine Roux n'a pu être présente. Donc on remercie très chaleureusement Abigail Oali, voilà, que Frédéric Casatsu, le modérateur de la soirée, nous présentera mieux, d'avoir accepté au débeauté, vraiment au dernier moment, de participer à cette table ronde. Et je remercie aussi Philippe Godin d'avoir accepté également de dire un petit mot. Donc ce soir, nous parlerons rite. Ensemble, avec donc Frédéric Casatsu en modérateur, Michael Hausmann, donc qui le suit, Véronique Bouillet, Abigail Oali et Philippe Godin. Nous allons commencer par une vidéo du linguiste Bernard Cerchiglini, et ensuite je passerai, qui va vous présenter l'étymologie du mot, comme chaque table ronde qui commence toujours par un petit focus étymologique, et ensuite je passerai la parole à Frédéric qui vous présentera les intervenants. Voilà, mènera un petit peu les différentes présentations, et ensuite nous vous passerons la parole pour des questions. Merci à vous.
L'histoire du mot rite est celle d'une sécularisation. Le latin ritus, sur lequel rite fut calqué au XIVe siècle, désignait les pratiques liées à une cérémonie religieuse. C'est le sens premier de notre terme, prescription, réglant la célébration d'un culte. Ces prescriptions forment un cérémonial qui distingue par exemple les rites alexandrins, arméniens, byzantins, grecs, maronites, syriens. Par analogie, le terme s'emploie pour des institutions pourvues d'un rituel particulier. C'est le cas des sociétés secrètes, rites maçonniques, écossais, égyptiens, etc. Il y a dans le rite du secret et du protocole, du social et de l'apprentissage. On comprend que l'ethnologie se soit saisie du terme afin d'en désigner plus généralement les pratiques sociales, réglées, symboliques ou sacrées. On parlera de rites nuptiaux, d'initiation ou avec Vangenep, de rites de passage qui élèvent le statut d'une personne au sein d'un groupe. De telles pratiques réglées peuvent perdre tout lien au sacré. Rite devient alors un simple synonyme de coutume, pensons au rite britannique du thé de 17 heures, voire d'habitude personnelle, éventuellement maniaque. Pensons au rite proustien de l'endormissement. Vous avez dit sécularisation ?
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci beaucoup de venir à la rencontre de nos experts. En préambule, je poursuivrai au fil de l'eau ce qui vient d'être proposé. N'est-ce pas, les rites de passage aujourd'hui à la fois disparaissent et sont rétablis d'une autre manière. On se souvient que le service militaire était une manière de devenir un homme, disait-on. Il a disparu, mais d'autres rites sont apparus qui permettent à des jeunes gens de s'intégrer à une bande, à un groupe. Bon, ces rites de passage fascinent les sociologues, et au point qu'on se demande s'il n'y a plus de rites aujourd'hui que de passage. Quand au contraire, un grand nombre de cérémonies, je pense notamment au concert de rock, se déroule selon ce qu'on devrait appeler un rite bien établi. Mais avec un peu de fantaisie, je vous proposerai aussi une anecdote. Évidemment, une anecdote ne fait pas une loi. Cependant, on le sait, il faut deux livres. Un livre pour dire la loi, et puis un livre pour essayer de comprendre comment elle fonctionne quand il arrive telle ou telle chose. Bon. Un de mes amis d'enfance, juif ashkénaze, se trouvait un vendredi soir d'hiver chez lui quand sa voisine frappe à sa porte. Il ouvre, elle lui dit « Est-ce que vous pouvez venir chez moi ?»« Bon, oui, bien sûr, je peux venir chez vous. » Elle lui dit, est-ce que vous pouvez éteindre le téléviseur ? Alors, il éteint le téléviseur. Est-ce que vous pouvez éteindre la pièce qui est là ? Oui, bien sûr, je peux éteindre la pièce. Puis elle le ramène vers l'entrée. Et puis elle lui dit, est-ce que vous pouvez éteindre la lumière aussi dans l'entrée de l'appartement ? Mais, bien sûr, je peux faire ça. Elle lui dit, merci beaucoup, parce que je vais vous dire, dans ma religion, le vendredi soir, on ne peut pas toucher à l'électricité. Alors il lui a répondu, mais dans la mienne non plus. Autrement dit, le rite, n'est-ce pas ? Ce sont des manières de vivre ensemble, des manières de se séparer, de se distinguer, d'être en lien. Et si je vous ai proposé cette anecdote, c'est aussi évidemment parce que notre première invitée, Abigail O'Ali, va vous parler du rite dans le judaïsme. Alors, il y sera sans doute question à la fois de la Torah et du Talmud. Vous avez un micro que je vous invite à prendre. Il fonctionne.
C'est bon, ça fonctionne. Très bien. Donc, je vais aborder donc la question du rite ou du rituel. Cette fois-ci, donc, dans le sens étymologique, donc, en lien avec la religion. Et je vais vous raconter une toute petite histoire. Donc, Madame Ariane Ben David, qui est professeure de littérature et philosophie juive à la Sorbonne, nous a raconté une fois. Donc, il s'agit d'un jeune qui a 13 ans et qui se prépare pour devenir bar mitzvah, c'est-à-dire qu'il va entrer sous le joug des commandements. Et donc, il étudie pour ça avec un rabbin, très sérieusement. Et puis un jour, il va voir son rabbin et il lui dit « Rabbi, j'ai un problème, je ne crois pas en Dieu. » Donc le rabbin lui dit « Oh, mais c'est pas grave mon fils, l'important, ce n'est pas si tu crois ou pas en Dieu. L'important, c'est Dieu, s'il existe, qu'il puisse croire en toi. » Et cette petite anecdote que je trouve assez touchante résume assez bien le caractère assez mineur de la foi dans le judaïsme et l'importance primordiale du rite. On peut voir, donc, en fait, c'est assez. C'est une communauté. Vous voulez ajouter quelque chose ? Pardon. C'est une communauté qui est assez réservée, la communauté ultra-orthodoxe juive. Mais le rituel donc, qu'on peut observer dans cette communauté va vraiment ponctuer et rythmer tous les moments de la vie. Donc le rite ou le rituel dans le judaïsme va se diviser entre la sphère privée et la sphère publique. Il faut savoir qu'un homme juif religieux orthodoxe se lève le matin. Et dès le moment où il ouvre les yeux, sa vie est déjà toute tracée. Ses actions sont toutes tracées. Il doit accomplir un certain nombre d'actions, réciter un certain nombre de prières, donc commencer par réciter donc, certaines prières, remercier Dieu de lui avoir permis de se réveiller. Réciter d'autres prières, d'autres récitations de versets. Il a à côté de son lit une bassine d'eau pour se rincer les mains, donc c'est un lavage rituel des mains. Et puis, donc, ainsi, tous les moments de sa journée, tous les repas vont être ponctués par des petits gestes, par des paroles qu'on doit prononcer avant de manger, après manger. Même la sexualité va être régie par un certain nombre de préceptes. On sait que donc la menstruation féminine elle aussi fait objet de donc d'un certain nombre de règles. À quel moment la femme peut être en compagnie de son mari ou non. Les hommes et les femmes qui vivent dans ce type de communauté, dans ce type de société, sont assez isolés de la société qui les entoure. Le rituel va les garder dans une sphère vraiment restreinte. Mais vous et moi, on connaît pas mal d'hommes et de femmes juifs qu'on reconnaît visuellement dans la rue parce qu'ils portent des signes que tout le monde connaît. Ça peut être un habit complet ou simplement une petite morceau de tissu sur la tête qu'on appelle la kippa, donc c'est un dôme. Donc, kippa en hébreu signifie dôme. Les femmes en général ont des tenues vestimentaires plutôt pudiques. Certaines peuvent porter des perruques, etc. Mais tous les hommes et les femmes juifs ne suivent pas le rituel si strict que dans les communautés ultra-orthodoxes. Donc on connaît des gens qui vont se lever le matin, comme tout le monde, prendre leur petit déjeuner, aller au travail. Mais eux aussi, donc, respectent d'une certaine manière le rituel. Mais eux vont respecter le rituel d'une manière un peu sélective. Ils vont plutôt donc privilégier le rituel dans la sphère publique. La sphère publique pour le rituel juif est évidemment la synagogue, dans laquelle il y a aussi donc un certain nombre de règles à respecter. La prière collective à la synagogue ne peut pas se faire avec moins de 10 personnes, par exemple. Donc beaucoup de personnes juives donc en France, qui vivent en France, qui veulent respecter l'obligation de prier 3 fois par jour à la synagogue, peuvent avoir des difficultés quand elles ont une vie active. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il existe le pôle emploi spécial juif en France qui s'appelle le bureau du Shabbat, dans lequel des sociétés proposent donc à des personnes juives des emplois qui sont adaptés à la vie, qui respectent ce rituel. Mais il y a aussi des degrés beaucoup moins stricts, on va dire, de respecter le rituel. Ce qu'on peut constater dans les communautés juives libérales, ces communautés-là vont privilégier donc l'intégration totale des personnes dans la société séculaire. Et dans ce cas, on va limiter donc le rituel uniquement à la partie donc publique. Évidemment, ce que les personnes veulent faire chez elles le font, mais la partie donc la plus importante du rituel, c'est une rencontre sociale qui va se faire donc dans des synagogues, mais qui ne va pas dépasser le cadre de la synagogue. C'est-à-dire que les personnes ne vont pas être amenées à se montrer en tant que juive. Donc, par exemple, le port de la kippa dans les communautés libérales est déconseillé à la sortie de la synagogue, parce qu'il est important de garder le rituel à l'intérieur, donc dans la communauté, et donc être pleinement intégré à la société. Alors, en quoi consiste en fait ce rituel ? Alors, récemment, j'ai vu, bon, c'était sur ma page Facebook, excusez la référence, j'ai vu donc une sorte d'appel à une nouvelle forme rituelle. Il me semble que ça s'appelait le positivisme. C'était une idée assez intéressante qui consistait à montrer une gratitude à tous les moments de la vie. Donc à chaque fois qu'on vit quelque chose de positif, tout simplement se sentir heureux et dire merci. Et finalement, le rituel juif ressemble beaucoup à cette idée-là. C'est quand on se lève le matin, donc comme le sommeil dans le judaïsme est presque assimilé à la mort, on va remercier Dieu de nous avoir ressuscités. Avant de goûter à quelque chose, on va remercier que cette chose existe et qu'elle va venir dans notre bouche. Il y a une prière que je trouve très poétique. La première fois, ou si on n'a pas vu par exemple la mer pendant longtemps, quand on arrive face à la mer, on doit remercier le Créateur d'avoir créé cette énorme mer. Voilà. Quand on voit un arbre verdoyant, il faut remercier Dieu de l'avoir créé. Donc toute cette, euh, tous ces petits rituels-là de remerciement, finalement, nous rappellent que cette vie est un cadeau, qu'on doit être heureux de la vivre. Donc, le détachement de tous les petits aspects du rituel s'était effectué donc, au XVIIIe et au XIXe siècle par les mouvements des Lumières juives. Et il y a un philosophe allemand qui s'appelle Hermann Cohen qui a consacré pas mal de réflexions à la religion juive et aux aspects du rituel qu'il considérait comme importants. Et lui, donc, c'est un philosophe qui a vécu à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Pour lui, il fallait rejeter presque toutes les parties du rituel juif et en garder deux. Alors, les deux choses qu'il voulait garder sont le jour des expiations, donc Yom HaKippurim, donc ce qu'on appelle le grand pardon, et le jour du Shabbat, donc le jour du repos hebdomadaire. Et si on regarde son choix avec attention, on peut voir que le repos hebdomadaire, qui est un précepte biblique, il faut le rappeler, était quand même un concept révolutionnaire dans son époque. Parce qu'un jour de repos à tout le monde, donc à tous les hommes, à toutes les femmes, à tous les esclaves, à tous les animaux, tout le monde devait se reposer, et même la terre. Donc, c'est pas un jour par semaine, mais une année, tous les 7 ans, devait se reposer. Donc, à l'époque, c'était non seulement un concept social révolutionnaire, mais aussi un concept écologique assez important. Et si on regarde le jour des expiations, cette volonté de demander pardon à son prochain, c'est aussi un rituel qui est finalement assez social. Voilà, donc je pense qu'on peut s'arrêter là.
Je ne sais plus, j'ai pas de... censurer. Non, mais... Vous savez, c'est, comme dit Grac, en lisant, en écrivant, il y a une logique du texte. Donc vous étiez dans votre logique, je vous en prie, concluez. Merci beaucoup.
Le problème, c'est que je n'ai pas de conclusion.
Ah, voilà. Pourquoi est-ce que ta réponse est une question ? Oui, pourquoi ? Alors, on va continuer, si vous voulez bien. Merci beaucoup, d'abord. Et maintenant, Véronique Brouillet, vous nous emmenez en Inde.
Exactement. Et comme Abigail, je vais vous emmener dans un contexte où les...
Il vous faut prendre le micro, s'il vous plaît.
Oui. Comme dans le judaïsme, en fait, ce qui est très important dans l'hindouisme, ce sont les pratiques, ce sont les gestes du rituel, beaucoup plus que les croyances, beaucoup plus que la foi, beaucoup plus que le dogme. On dit qu'il s'agit d'une orthopraxie beaucoup plus qu'une orthodoxie. Et ces gestes du rituel sont tellement importants que même dans la période la plus ancienne de l'Inde, la période védique, il y a eu des textes qu'on appelle les brahmanas, qui ont été des textes qui ont été voués au rituel, qui décrivaient minutieusement le moindre geste qu'il fallait faire au cours de ce qu'on appelait les sacrifices, ce qui voulait dire offrande, qui n'incluait pas nécessairement des sacrifices animaux, mais qui pouvait en inclure. Et donc, ces gestes rituels ont fait l'objet de toutes sortes de prescriptions parce que l'ordre du monde en dépendait, en fait. Du bon fonctionnement du rituel dépendait l'ordre du monde dans la mesure où toute erreur pouvait entraîner un bouleversement dans l'équilibre des différents composants de l'univers et amener, vous vous en doutez, les pires catastrophes. Donc cette importance du rite a été vraiment omniprésente dans l'histoire de l'Inde jusqu'à la période la plus contemporaine dont je vais vous parler. Les gestes des rituels ne sont pas forcément très compliqués. Ça peut être des gestes extrêmement simples. Et dans la vie quotidienne, dans les pratiques du matin, dès qu'on se lève, par exemple, on fait une offrande au dieu qu'on appelle puja en contexte indien. C'est le premier des rites. Et il peut s'agir simplement d'offrir quelques fleurs, quelques gouttes d'eau ou de s'incliner devant une effigie d'une divinité ou même pas de s'incliner. Incliné devant le soleil. C'est le premier des hommages matinaux que l'on fait, en fait. Et donc, ça, c'est le rite dans toute sa simplicité, mais vous avez, et vous en verrez quelques illustrations dans les photos que je vais vous montrer, des rites qui sont extrêmement complexes, qui nécessitent la présence de plusieurs intervenants et une répartition qui est assez importante finalement entre celui qui fait le rite, entre l'officiant, le prêtre, et celui pour qui est fait le rite. Donc il y a une interaction le plus fréquemment, disons, on est dans une situation d'interaction entre le spécialiste du rituel qui sait comment faire, le prêtre, et celui pour qui il célèbre et à qui il explique en fait les bons gestes qu'il convient de réaliser. Alors, dans le foisonnement des rites hindous qui scandent aussi bien la vie quotidienne que les différentes étapes du cycle de la vie et du cycle de la vie de la collectivité, on peut faire une distinction qui est assez opérationnelle et qui est une distinction d'ailleurs que font les gens et les textes eux-mêmes entre les rites qui sont des rites qu'on pourrait dire eschatologiques, c'est-à-dire qui visent à rapprocher du divin, soit rapprocher du dieu, alors ce sont des rites d'hommage à la divinité et d'offrande à la divinité, soit des rites par lesquels on se rapproche de ce qui est le but de la religion et de la pratique individuelle, c'est-à-dire la libération, la délivrance par rapport à l'enchaînement du cycle des activités et des renaissances. Donc ces rites vise à vous rapprocher, si vous voulez, du but ultime qui est la vie d'un bon hindou, qui est la libération. Alors, ces rites sotériologiques, ça peut être des rites d'initiation dans une obédience religieuse, dans une obédience dans une secte religieuse. Et là, vous en verrez quelques exemples, parce que ce sont les gens auprès duquel je travaille le plus souvent. Vous avez aussi des gestes de, comme je le disais, d'hommage aux divinités, où vous mettez dans un état corporel particulier, vous vous préparez par le jeûne par exemple, par une série d'abstinences sexuelles, alimentaires, par des pratiques de méditation pour vous rapprocher du divin, avec l'idée que vous faites de votre corps même un réceptacle du divin, mais aussi un dieu. Seul votre corps purifié sera assez pur et sera à même de rendre hommage au dieu. Vous avez un second ensemble de rites qui sont des rites plutôt sociaux, plutôt communautaires, qui rassemblent la communauté autour de performances que l'on fait tous ensemble. Alors, je pense par exemple aux processions, aux grandes fêtes villageoises, mais aussi aux rites du cycle de vie comme le mariage ou les funérailles, où il s'agit de ressouder des communautés autour d'un nouvel arrivant ou bien après un décès. Les processions, bien sûr, alors elles sont à différents niveaux. Elles peuvent être aussi bien avec un groupe de quartier, un village, un temple. Vous les connaissez bien à Paris avec, par exemple, les processions de Ganesh qui sont spectaculaires dans leur déploiement festif et dans la chaleur, je dirais, des gens qui y participent. Et puis, vous avez aussi des rites qui sont, disons, des rites plus individuels, qui sont des rites instrumentaux, instrumentaux, disons, qui obéissent à une merci, qui obéissent à une intention précise. En fait, ce sont des rites que l'on fait pour obtenir quelque chose, bien concrètement, c'est-à-dire soit pour se prémunir d'une maladie, se libérer d'une maladie, ou obtenir un succès dans telle circonstance, obtenir des enfants, par exemple. Beaucoup de femmes en Inde font des rites, soit dans l'intimité de leur maison, soit dans les grands temples, pour avoir des enfants. Donc, disons qu'il y a ces trois grandes catégories de rites, mais bien sûr, il y a des chevauchements d'une catégorie à une autre. Alors là, je vais vous montrer un ensemble de photos. En gros, on se trouve dans ma première catégorie, dans la mesure où la plupart des rites que je vais vous montrer se déroulent dans une communauté d'ascètes hindous. Et ce sont donc des rites que font ces ascètes pour honorer leur divinité personnelle qui est Shiva, ou bien pour marquer différentes étapes dans leur propre itinéraire. Alors là, je vais vous montrer une première série de quelques photos qui ont été prises au cours du rite d'intronisation d'un chef de monastère. Alors, ça s'est déroulé sur plusieurs jours. C'était tout un ensemble d'opérations très complexes qui obéissaient, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, certains de ces rites correspondent à des textes bien précis. On suit le déroulement de manuels rituels, et l'ordre des différentes opérations est très importante. Ces rites s'accompagnent aussi de musique, de psalmodie. Les versets des Védas sont chantés, donc il y a tout un et puis vous le voyez, il y a tout un côté esthétique qui joue beaucoup. En fait, on fait des dessins sur le sol, vous allez le voir, qui obéissent bien sûr à des consignes très précises de mise en place d'un mandala, d'une mini carte du monde, si vous voulez, une mini carte de l'univers sur laquelle vous appelez les divinités. Donc là, il s'agit du premier. Là, vous avez sur la gauche un brahman qui est en train de préparer tout un rite d'offrande aux divinités et qui va consacrer l'eau qui se trouve dans les deux grands pots de terre que vous avez là. Et cette eau servira à asperger le futur chef de monastère. Donc là, le brahman est en train de réciter des textes, des mantras védiques, et il jette sur le feu les différentes graines, les dieux se nourrissant de la fumée des sacrifices. Là, vous avez le chef du monastère qui va être intronisé est au centre, son prédécesseur est à gauche, et vous le voyez faire un geste tout simple d'absorption de l'eau consacrée qui va transformer l'intérieur de son corps pour le rendre apte aux rites qui vont suivre. Voici l'intronisation du chef de monastère où il est aspergé avec une sorte de petit goupillon que vous allez voir un peu mieux. Donc il est assis, il est sur un piédestal, et par le geste d'aspersion, il est couronné, si vous voulez, il est fait chef de monastère. C'est ce geste d'aspersion qui le rend apte aux tâches qui vont ensuite auxquelles il sera appelé. Ça rappelle beaucoup. Alors, ce type de couronnement est un couronnement qui est fait également pour les rois, et ça rappelle aussi les couronnements des rois de France, où le côté aspersion est très important, avec bien sûr un saint crème, enfin une autre sorte de liquide. Mais alors là, ce sont des groupes d'ascètes qui sont en train de faire, là aussi, au cours de cette même grande cérémonie, qui sont en train de se réunir et de rendre un culte à une divinité qui est posée sur le sol et qu'on ne voit pas, avec un geste qu'on fait très souvent avec un chasse-mouche. C'est ça, oui, voilà. Trois ascètes sont en train de souffler dans un minuscule, ils sont inclinés, et c'est le geste rituel minimal pour cette collectivité. Ils ont un minuscule petit sifflet autour du cou, et lorsqu'ils soufflent dans ce sifflet, ils accompagnent ce sifflement d'une montée de l'énergie à l'intérieur de leur corps. Donc la montée du souffle s'accompagne d'une montée d'énergie, et ils émettent un minuscule petit sifflement, et c'est ce rythme qui fait de leur corps, en fait, un réceptacle d'une transformation qui va les rapprocher de leur but, qui est donc la délivrance. Donc là, les trois chefs de monastère sont inclinés devant un objet qui est un couvert de fleurs, qui est un objet sacré, qui est l'objet identitaire de leur communauté qu'on ne doit jamais voir, qu'ils transportent toujours solennellement et devant lequel ils rendent hommage. Là, c'est le groupe des ascètes en train de rendre hommage aussi avec toute une décoration, vous voyez. Et le premier qui est devant vous est un ascète qui a fait un vœu particulier de se couvrir de cendres en signe en fait de rapprochement avec Shiva et d'humilité. Alors là, on est dans un autre contexte. C'est un autre monastère de la même obédience religieuse, mais là il s'agit d'un grand ensemble de rituels qui a duré une semaine, avec un bâtiment spécial qui a été construit, comme vous le voyez, et avec 108 brahmanes qui ont été invités pour réciter pendant 10 jours tout un ensemble de textes accompagnés de différentes offrandes sur les autels que vous voyez sur l'image. Alors là, vous avez en orange un autre chef de monastère accompagné d'un couple de laïcs à qui ils rendent hommage, et qui, enfin, il les a invités à venir célébrer avec lui, je dirais. Ce chef de monastère est en train de dessiner sur le sol un petit diagramme, et sur ce diagramme, qu'il couvre de grains de riz colorés, sur ce diagramme qui représente là, en fait, des forces obscures qu'il s'agit de propitier pour qu'elle ne perturbe pas le déroulement des rites, il va faire des offrandes. Même cadre cérémoniel, vous avez un officiant brahman qui a dessiné sur une petite tablette devant lui des diagrammes et qui va faire des offrandes. Même cas de figure, l'officiant brahman dans un autre cas, devant une statue de la déesse, a préparé un autel en fait pour les rituels. Que vont faire le personnage qui est sur la droite, qui jette donc sur le feu les graines destinées aux dieux? Même cérémonie, vous avez tout un groupe de laïcs, si vous voulez, qui sont rassemblés autour de feux. Il y a 11 feux, et pendant 3 jours, ils vont jeter des graines de façon continue dans ce feu, en accompagnant ce jet d'offrande, d'invocation particulière en sanskrit. Et alors là, c'est la même chose. Le feu est le feu est comblé maintenant. La fosse a été comblée par les offrandes et on y jette de façon ultime du beurre clarifié. Alors, un geste là pour vous montrer que c'est pas toujours. Ça, c'est un geste qui au contraire est très simple. Il s'agit là encore d'un officiant qui le soir pour la cérémonie du soir est simplement auprès d'une statue et promène un brasero. C'est un rite qui, là, est en revanche très, très simple. Et pour vous montrer qu'il n'y a quand même pas que des hommes dans ce monde, voici une jeune femme en train de préparer, là aussi, un ensemble d'offrandes sur une plaque de marbre qui, en fait, est dédiée à un saint qui se trouve enterré. S'il s'agit d'une tombe. Et ce que vous voyez sous l'étoffe orange à droite, sous l'étoffe ocre, est la tombe d'un saint fondateur de ce monastère auquel la jeune femme rend hommage. Dernière photo, là encore des femmes, donc tout un ensemble de femmes qu'on dit être des femmes de bon augure, qui portent sur la tête de l'eau consacrée et qui accompagnent une procession qui va faire le tour de la ville pour montrer aux divinités en fait leur territoire. Donc vous voyez, ça peut aller du plus simple au plus compliqué et du plus quotidien au plus élaboré.
Merci. Merci infiniment de cette présentation. Merci beaucoup. Et pour presque conclure, en vous écoutant, mesdames, j'étais frappé d'une chose, peut-être l'avez-vous été aussi, de l'optimisme qui berce les rites dont vous avez parlé l'une et l'autre. Tout est ici le contraire de ce que l'on appelle le rite initiatique de passage, dont on sent bien qu'il n'est quand même pas une chose aspergée d'eau de rose, hein, on pourrait dire. Là, au contraire, tout est optimisme et joie et regard vers l'espérance, me semble-t-il. Alors, je laisse la parole à Michael Hausmann. Merci beaucoup d'intervenir à votre tour.
Merci beaucoup. Non, malheureusement, ça ne marche pas. Bon, excusez-moi, moi, je vais prendre un point de vue un tout petit peu différent, puisque je vais agir en tant qu'ethnologue dont la vocation, ce n'est pas uniquement de rapporter sur des pratiques particulières, comme on vient de voir, mais de s'interroger et de mener une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le rituel, donc de façon générale, chez les humains. Et ce n'est pas une tâche facile, parce que d'abord, on doit s'interdire de transposer simplement ce qu'on pense peut être le rituel dans nos propres traditions et de reconnaître comme rituel ce qui est plus ou moins semblable chez les autres. On doit s'interdire ça simplement parce que les autres sont différents et que justement, faire preuve d'une sorte de démarche ethnocentrique n'est peut-être pas mauvaise en soi, mais ce n'est pas la science, quoi, en gros. Mais les choses sont encore plus compliquées parce que les gens qui n'utilisent pas nécessairement, et même pour la plupart n'utilisent pas, le mot rituel. C'est-à-dire que, par exemple, là où j'ai fait mon terrain au sud Cameroun, certaines activités que les gens pouvaient, que moi je reconnaissais comme à l'évidence relevant des activités rituelles, les gens utilisaient un mot qui était le même mot pour travail, comme on travaillait dans le champ, mais c'était un travail d'un type particulier. D'autres activités que moi aussi, je reconnaissais comme étant parfaitement aptes à pouvoir être qualifiées de rituelles, les gens parlaient de ça en utilisant le mot fête. Encore d'autres, c'était je. Donc à ce moment-là, si moi je voulais parler des rituels chez ces gens-là, qui sont des bêtis donc du Sud Cameroun, c'est moi qui invente cette idée-là. C'est-à-dire que c'est moi qui pose comme un objet conceptuel des éléments qui en fait empiriquement reçoivent des désignations totalement différentes. Et c'est évidemment encore plus le cas lorsque on prétend parler du rituel en général dans les sociétés humaines. On est en train en fait d'inventer une sorte de notion et s'interroger sur une notion qui est donc motivée par une réflexion théorique. Donc en gros, il faut avoir une théorie du rituel si on veut parler du rituel en général chez les humains. Et il y a une petite implication un peu intéressante dans tout ça qui est que si, mettons qu'on a une idée, on a une définition du rituel anthropologique de façon générale, donc, on peut dire que chez les intels, il y a bien des activités rituelles, bien que ces gens-là ne les désignent pas comme tels. Eh bien, si c'est aussi le cas chez eux, c'est peut-être aussi le cas chez nous. C'est-à-dire qu'il se peut que chez nous, on ait des activités que les anthropologues peuvent reconnaître, selon le théorie qu'ils ont, comme rituelles, mais que nous-mêmes, nous ne désignons absolument pas avec le vocable rituel. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent être intéressants d'être vus comme ça. Je pense, par exemple, à des pratiques autour du bien-être. Là, on a parlé un tout petit peu du positivisme, des concerts, mais il y a aussi tous les phénomènes les pratiques autour des psys, hein, du coaching, qui sont à l'évidence une démarche un peu particulière, qui ne se confond pas avec du jeu, ni qui ne se confond pas avec du spectacle. Toutes les activités de mémorialisation public, je suis Charlie, ce genre de choses. Bon, ce sont des activités que nous, on ne va pas désigner rituelles, pas plus que la méditation, la télé-réalité, le végétariat. Il y a plein de phénomènes qui mériteraient peut-être d'être envisagés comme relevant du rituel. Mais pour avoir cette idée-là, il faut avoir une petite théorie du rituel. J'en ai une. Alors, c'est pas cher les théories, c'est ça qui est bien. On peut les changer toutes les semaines, c'est bien. Donc, j'en ai un petit. Il faut dire une chose, c'est que les théories du rituel, il ne faut pas que ça porte sur le contenu du rituel. Parce que ce qu'on peut être certain, c'est que les valeurs et les idées que véhiculent, donc qu'ils ont médiatisées par l'action rituelle, sont les mêmes valeurs et idées qu'on retrouve ailleurs dans le même contexte culturel, dans la façon de s'habiller, dans la façon de parler, les mythes, ce genre de choses. Donc ce n'est pas ce contenu, les valeurs et les idées qui vont distinguer le rituel d'autres choses. Alors, à la rigueur, si on veut parler de rituels religieux, on peut dire, oui, bon, les activités qui font intervenir des entités surnaturelles, ou un peu hors du commun, non humain, des ancêtres, des esprits, l'inconscient freudien, tous ces genres de choses, disons, qui ne sont pas humaines, qui sont extra-surnaturelles. Mais en ce cas-là, on est en train de cerner un phénomène en tant que religieux, et pas nécessairement en tant que rituel. Justement, le rituel, c'est plutôt, ça tient à une sorte de forme. Ce n'est pas tellement le contenu, c'est plutôt, c'est un type d'activité qui a une forme spécifique. Et alors là, la question, c'est, bon, ben, laquelle? Et là, je vais sortir ma petite théorie. En gros, c'est d'aborder le rituel comme une certaine façon de participer à des événements. C'est-à-dire, en d'autres termes, une certaine façon de faire attention à ce qu'on est en train de faire, très souvent avec d'autres. Et l'idée, c'est que la façon qu'on fait attention peut être différente si l'activité dans laquelle on est engagé est plutôt sur le mode du jeu, plutôt sur le mode de l'interaction ordinaire, plutôt sur le mode du spectacle, plutôt sur le mode du rituel. À chacun de ces façons de faire, il doit en avoir d'autres, il y a une spécificité dans la posture que j'adopte pour y participer. Eh ben, pour repoussoir, moi, je vais utiliser ce qui est quand même propre à beaucoup de nos interactions quotidiennes, qui est grosso modo, nous supposons que toutes choses étant égales par ailleurs, mes actions sont l'expression de mes dispositions. C'est-à-dire que ce que je pense et ce que je ressens, et je donne ça à voir dans mes actions. Si je pleure, c'est que je suis triste. Si je râle, c'est parce que je suis en colère. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est exactement l'un et la traduction de l'autre, parce qu'en fait, je pleure pour qu'on fasse attention à moi, pas tellement parce que je suis triste. Mais, toute chose étant égale par ailleurs, on présuppose que les actions sont intelligibles en ce qu'ils reflètent les dispositions, les états d'esprit, la pensée des gens qui agissent. Dans le rituel, c'est exactement l'inverse. C'est plutôt que je focalise mon attention sur le fait de faire certaines actions en présupposant que le fait que je fasse faire ces actions-là aurait un effet sur ce que je pense et ce que je ressens. Donc là, en gros, je ne suis pas en train de me dire, compte tenu de ce que moi je pense et que je ressens et ce que je peux penser que les autres pensent et que je ressens et qu'ils ressentent, qu'est-ce que je dois faire? C'est plutôt, compte tenu de ce que je fais et ce que je vois que d'autres aient fait, mais quel est l'effet que ça peut me faire? Alors, là, l'idée, c'est qu'on a une certaine régime d'attention propre au rituel. Je participe d'une certaine façon où ce sont les actions qui comptent d'abord. C'est ce que je fais et le fait de faire ça va me toucher d'une certaine façon. Donc, ce n'est pas du tout que mes actions expriment ce que je... Ça ne s'origine pas avec moi, ça s'origine avec quelque chose en dehors de moi, auquel moi, je dois m'atteler à faire les choses de la façon qui convient de les faire, et de le faire de cette façon va avoir un effet, et notamment un effet sur moi. Donc, cette présupposition-là, la question, c'est comment est-ce qu'on engendre ça? Comment ça se fait que certaines façon de participer à des événements vont être vécues sur ce mode-là plutôt que sur le mode plus ordinaire que les actions, en fait, ça reflète ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Donc, à titre d'exemple, je fais ceci. Bon,
c'est relativement clair. Hein. J'ai fait une action de boire de l'eau et l'idée était je l'ai fait parce que j'ai soif. Hein. Donc là, mon action exprime mes dispositions, mon état d'être. Et maintenant, je fais comme ceci. Le problème, c'est que là, l'hypothèse qu'on avait au début, que je bois simplement parce que j'ai soif, commence à s'éroder. On se demande, mais il y a un autre truc. Il est en train de boire, mais il est aussi en train de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait exactement? On ne sait pas très bien. Mais à l'évidence, il faut le faire à la façon qui convient de le faire. Mais tout d'un coup, ça devient un peu... Et on commence à imaginer l'éventualité de cette action-là à une valeur en lui-même qui fait que justement, il convient de le faire comme il faut le faire. Alors, ça c'est un exemple. Mais un autre, c'est quand j'essaie de... Quand je bois un verre d'eau, que j'essaie de voir vraiment, d'être pleinement présent avec l'eau qui est là, de prendre conscience du fait que moi-même, je suis fait en 70% de l'eau. Donc on n'est pas si loin l'un de l'autre. Et finalement, quand je bois, je participe à faire rencontrer. Ah, c'est bien. Ben là aussi, j'ai compliqué un petit peu les choses. De sorte que l'hypothèse que simplement je buvais parce que j'ai soif, mais ça ne tient pas tellement la route, je faisais autre chose. Cette autre chose, j'ai complexifié le fait de boire de deux façons différentes. Dans la première façon, je l'ai complexifié côté action. J'ai rendu les actions un petit peu plus opaques, un peu plus difficiles. Qu'est-ce que je faisais exactement? C'est absolument pas évident. Mais dans le deuxième, les actions étaient relativement simples. En revanche, en raison des injonctions que je me suis fait, être vraiment présent. Alors, par opposition à être présent, ce n'est pas évident ce que c'est. Là, tout d'un coup, je suis en train de... Ce que je complexifie, ce n'est pas tellement l'acte, c'est moi que je complexifie. Qui exactement est en train de boire l'eau? Est-ce que c'est moi qui est à même de pouvoir percevoir ce que l'eau est vraiment? Ou est-ce que c'est moi qui tente justement d'agir de cette façon-là, que je n'agis pas comme ça habituellement, mais là j'essaie d'émuler, de retrouver en moi certaines façons de sentir. Certaines... Bon, vous voyez le problème, c'est que moi je m'efforce de sentir certaines choses, mais il ne suffit pas de les sentir. Il faut que je sois conscient du fait que je m'efforce de le faire. Alors je suis combien ? C'est moi qui ressens la chose et puis moi qui m'efforce à ressentir les choses. Et je suis un peu mon frontière, disons, à moi. Qui suis-je en ce moment-là? Tout d'un coup, j'ai la capacité de voir ce que l'eau est vraiment. Ça veut dire, c'est aussi difficile à dire ce que ça veut dire que quand je passe l'eau comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Justement, ça reste en suspens. Donc, pour moi, cette autre façon de faire du rituel est tout aussi légitime et intéressante de la première, sauf qu'elle est organisée autour d'une complexification non pas des actes, mais des dispositions, des acteurs. C'est-à-dire que là, c'est des acteurs qui deviennent complexes plutôt que des actions qui deviennent complexes. Je suspecte que mais dans les deux cas, il s'agit de faire des choses et être attentif à l'éventualité, non, disons que les choses que je fais deviennent intelligibles dans la mesure qu'elles sont présupposées pouvoir avoir un effet sur moi qui les font. Et du coup, de ce point de vue-là, les deux sont rituels. Simplement, ils sont sur des fondements un peu différents. Et j'aimerais bien proposer, c'est une question que je soulève comme ça, que de ce point de vue-là, beaucoup des actions que nous faisons dans notre vie quotidienne, tout le champ du devoir de s'engager de retrouver qui on est vraiment, d'agir, d'être fidèle à soi-même, comme si on pouvait être autre chose. Mais bon, toute cette idée, cette impérative, disons, de la culture contemporaine actuelle, auquel participe évidemment toute la démarche psy, auquel participe beaucoup de choses, est en fait quelque chose qui est
assez voisin à ce type de complexification-là. Hein. Qu'on fait souvent, même dans la lecture romanesque, hein, je sais que le personnage, il n'est qu'issu de petites gribouillis sur le papier. En même temps, donc c'est faux un peu, mais en même temps, c'est un personnage qui est plus réel, hein, qui incarne certaines choses de façon massive et intéressante pour moi. Bon, quand je vais chez le psychanalyse, j'essaie de retrouver certaines dispositions, certaines façons de penser, certaines façons de ressentir, et j'agis en fonction. Et quand je le fais, ça me touche. Quand moi, j'ai mon eau, j'essaie de retrouver un rapport à l'eau d'une certaine façon, et quand je bois comme ça, ben, ça me touche. Alors, ce genre de ritualisation-là, il se peut que, si on prend ça en compte comme relevant du rituel, il se peut qu'en fait, on est entouré de rituels. Ça ne nous a pas gêné, nous ethnologues, de dire que les autres, ils avaient une vie imprégnée de rituels et de religions. Mais peut-être c'est la même chose pour nous. Simplement, nous, on ne l'appelle pas religion, mais eux non plus. Du coup, voilà.
Merci infiniment. Et puisque à tout rituel, il y a des petits aménagements, des petites exceptions, comme à toute règle, eh bien, Philippe Gourdin va conclure.
Merci beaucoup. C'est vrai que ces histoires, ces allers-retours, ces allées et venues entre les uns et les autres, des cultures différentes, mais en même temps parfois semblables, c'est vrai que ça me fait penser souvent à cette... anecdote que nous avait raconté un de mes professeurs. Peut-être que vous la connaissez en tant qu'ethnologue. Effectivement, c'est une petite histoire, c'est une fiction, hein, bien évidemment. Et donc, c'est un ethnologue plutôt genre fin du 19e, etc. Et donc il va chez les Indiens d'Amérique du sud, dans l'Amazonie, etc., etc. Il accompagne, etc., les gens avec les pirogues, etc. Et puis, il y a un orage d'une violence extrême pendant la nuit, et les pirogues s'en vont sur le fleuve parce qu'elles ont rompu leurs amarres faites de lianes. Et donc, notre sociologue, ethnologue, anthropologue 19e interroge les Indiens pour savoir ce qu'il en a été. Et donc, ils répondent, mais c'est que l'esprit du vent, l'esprit du fleuve est venu libérer Sœur Pirogue, etc. Alors, il est fou de joie, il dit, recours à des causes imaginaires, mentalité primitive, n'est-ce pas, typiquement non scientifique, ben, tout rentre dans ses cases, il est ravi. Et alors, il ramène, évidemment, le chef indien chez lui, à Paris. C'est une fiction, bien évidemment. Et donc, c'est le Paris où il y a les premiers véhicules à moteur, une espèce de gros impérial qui freine pas très bien. Et le chef indien est témoin d'une chose horrible, un accident. Quelqu'un se fait renverser et meurt. Bon. Et le lendemain, donc, notre ami ethnologue lit le journal et dit, bah voilà, c'est relaté dans le journal, il est écrit... Voilà, c'est écrit là, Monsieur Dupont a été rappelé à Dieu hier. Et l'Indien a dit, mais ce n'était pas Dieu, c'était une automobile, n'est-ce pas ? Voilà. Et donc, ça veut dire que spontanément, ce que l'on prête à son propre langage, c'est une valeur et une signification symbolique. Et généralement, on prend le langage des autres, je dirais, au premier sens du terme, et sans cette épaisseur symbolique. Par ce phénomène de miroir. Alors c'est vrai que dans la continuité de ce qui vient d'être dit, je réfléchissais un petit peu à ce que certains philosophes ont pu dire concernant le rituel, faire juste peut-être deux remarques, donc une réflexion en deux temps. Et là, ça peut rejoindre aussi des préoccupations d'ethnologie, d'anthropologie ou de sociologie. Un philosophe comme Alain, par exemple, qui a beaucoup réfléchi au système des beaux-arts, avait cette idée au fond de, et ça c'est assez classique hein, en philosophie, la question de savoir quel est l'art primordial, en quelque sorte le premier des arts. Et au fond, cette idée que c'était du côté de la cérémonie qu'il fallait le chercher, en quelque sorte. Et donc la cérémonie, pour Alain, c'est ce par quoi le groupe humain se donne à voir, pour les autres peut-être, mais surtout pour lui-même, comme étant précisément quelque chose qui obéit à quelque harmonie, à quelque vision cosmique, quelque, comment dirais-je, quelque ordre, en quelque sorte, qui correspond ou qui ne correspond pas à l'ordre cosmique, par opposition au désordre, par rapport à la horde, par rapport au risque toujours de la violence qui disloque le groupe. Et donc, au fond, l'essence de l'art, l'essence de la cérémonie, c'est la chorégraphie. Hein, en grec, ça veut dire le mouvement du cœur. Et donc, une société, c'est toujours un groupe qui cherche à régler un mouvement d'ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a des fêtes, c'est pour ça qu'il y a des cérémonies, c'est pour ça que l'on arrive à ordonner le groupe social en pliant ensemble l'espace et le temps. Et c'est le propre, justement, de la chorégraphie. Et les corps et les âmes, car le mouvement des corps ne peut pas ne pas suggérer des pensées. Et ça n'est sans doute pas sans rapport avec, semble-t-il, la théorie de Michael, par exemple. Et, par exemple, chez Le Roi Gourand, dans La parole et l'outil, il y a des choses très intéressantes, mais je ne sais pas s'il y a eu certainement des progrès depuis ce temps-là, mais je pense qu'on ne peut se contenter que de conjectures sur ce qu'on appelle l'art pariétal. Et au fond, cette idée, mais au fond, de à quoi ça servait, comme on dit vulgairement, voilà, ces peintures, quelles étaient leurs significations, etc., etc., etc. Et au fond, cette idée que c'est comme une, comment dirais-je, comme une partition, finalement. Cette suggestion que ces peintures sur les grottes étaient une manière de marquer un ordre dans la cérémonie, de telle sorte que l'officiant avec le groupe derrière lui, avec lui, suivait un ordre en quelque sorte, et que d'une station à une autre, comme il y a des stations et dans le chemin de croix dans les églises par exemple, à tel moment, à tel endroit, devant telle image, on devait accomplir tel geste ou chanter telle chanson, alors à des fins propitiatoires, etc., etc., peu importe. Mais que précisément cet art pariétal n'était pas fait effectivement pour être contemplé comme nous nous plaçons parfois devant une œuvre, mais que c'était une manière de retrouver une chorégraphie, c'est-à-dire un ordre social. Ça, c'est pour le collectif. Il y a aussi la dimension individuelle des âges de la vie, mais on en a déjà parlé, on ne va pas insister. Et puis sinon, deuxième réflexion, et c'est classique en philosophie, c'est vrai que la philosophie peut paraître comme une espèce de religion sans rite, et les philosophes ont parfois tendance à trouver que les religions ont beaucoup de rites et peu de pensées. Mais en même temps, selon la belle formule bien connue de Paul Ricoeur, le symbole donne à penser. Et c'est vrai, quand on parle de la pensée symbolique, quand on parle des gestes symboliques, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un rite, sinon un geste dont la signification n'est pas immédiatement utile ou utilitaire, et qui a donc un sens symbolique? C'est un adjectif qu'on emploie très couramment, mais sans toujours donner une signification assez claire. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'un symbole, il faut se rappeler que tous les symboles sont des signes. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un signe? C'est une vieille définition qui est très ancienne, qui nous vient de la scolastique, et qui dit qu'un signe, c'est quelque chose à la place de quelque chose d'autre. Voilà. Si vous écrivez un mot, si vous prononcez un mot, si vous faites un dessin, ou si vous passez une convention du style « quand je soulèverai la bouteille, ça signifiera qu'il ne restera plus qu'un quart d'heure de conférence ». Non, un peu moins, rassurez-vous. Et donc,
quand je mettrai mes lunettes, voilà, ça voudra dire voilà. Que...
Un signe, c'est quelque chose à la place de quelque chose d'autre. Et le simple fait de l'existence du signe est comme une espèce de preuve de l'esprit qui suggère la présence précisément d'une absence, c'est-à-dire la signification du signe. Donc tous les symboles sont des signes avec ce qu'on appelle un signifiant et un signifié, et puis un référent. Bon. Le signifiant, c'est le corps du signe, le signifié, c'est le concept, et le référent, c'est la chose qui est désignée. Par contre, si tous les symboles sont des signes, tous les signes ne sont pas des symboles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Alors, exemple, je sais pas quoi, le lion est le symbole de la force, ou la balance est le symbole de la justice. Donc qu'est-ce que c'est qu'un symbole? C'est un signe dans lequel la relation entre le signifiant et le signifié n'est pas purement et simplement conventionnelle, mais c'est un signe dans lequel la relation entre le signifiant et le signifié est, comme on dit, motivée. Ça veut dire qu'il y a une ressemblance comme naturelle entre le signifiant et ce qu'il est censé signifier. Autrement dit, le symbole est toujours ambivalent. On ne sait jamais si un lion, ça veut dire que c'est juste un animal, ou si c'est le symbole de la force. Bref, il y a des choses qui, en elles-mêmes et par elles-mêmes, portent leur signification indépendamment d'un système de correspondance conventionnelle entre les signifiants et les signifiés, ce qu'on appelle une langue. C'est la raison pour laquelle l'art est, par excellence, la communication symbolique. Et donc, le rapport avec le rite, je pense qu'il est là. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, par le symbole, je ne dis pas confusément ce que je pourrais dire par une belle langue bien ordonnée, avec des significations univoques, en quelque sorte. Mais par le symbole, je dis ce que je ne pourrais pas dire autrement. Voilà. Autrement dit, la musique, la peinture, etc., bref, l'art d'une manière générale, et peut-être la religion par rapport à la philosophie, ça n'est pas l'art de dire ce que la philosophie dirait clairement sur un plan conceptuel, et l'art et la religion ne seraient là que pour dire d'une manière confuse ce que la philosophie ou la science devrait dire ou pourrait dire d'une manière claire, mais c'est que précisément par la poésie, par la musique, par le rite, par la religion, je dis des choses que précisément on ne pourrait pas dire autrement. Comme s'il y avait précisément des significations inouïes que seule une figure ou un symbole peut porter. Et par où, précisément, on peut retourner la critique que font les philosophes du rite en disant que le rite porte à penser parfois plus que le concept. Et je me rappelle un ami, Claude Birman, spécialiste du judaïsme, sur le vieux débat sur la justification de telle ou telle règle. Ben, c'est qu'elles ne sont pas complètement absurdes, mais un peu quand même. Et c'est ça qui est bien. Parce que précisément, observer un rite, c'est ne pas pouvoir s'empêcher de penser à sa signification, qui reste toujours finalement un petit peu obscure, en quelque sorte, et qui n'est jamais complètement détachable, je dirais, ben précisément des habitudes, de ce que l'on a reçu. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, je pensais à une formule de Merleau-Ponty dans Cygne qui dit « Ce que nous voulons dire n'est pas comme une pure signification hors de toute parole, ça n'est que l'excès de ce que nous vivons par rapport à ce qui a déjà été dit. » Autrement dit, on ne peut que penser et signifier que par rapport à quelque chose qui a été reçu, par quelque chose qui a été hérité. Nous sommes traditionnels. Et les rites doivent être critiqués, ça c'est le ritualisme, c'est la névrose, mais en même temps, les rites sont comme un support, en quelque sorte, qui nous permettent de penser et de vivre chorégraphiquement ensemble. Voilà.
En principe, je pose une question, mais là, j'ai le sentiment que l'heure est venue que vous posiez des questions. Alors, je vais en poser une de questions. Y a-t-il des questions ?
Oui, merci. Malraux disait, en Inde, la vie est un rite. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça représente ?
Et rythmé par le rite, je pense que ça veut dire ça, en fait. Et il faudrait que j'aille chercher le contexte dans lequel Malraux s'est exprimé, mais je pense que l'idée était qu'en effet, la vie elle-même n'a de sens par rapport à la religion hindoue que si elle est encadrée par un ensemble de gestes qui vous approche justement de ce but ultime qui est la délivrance et que seul le rite peut apporter.
Et alors donc, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait chez nous au Moyen-Âge. C'était Georges Duby qui disait, pour moi, l'Inde est le Moyen-Âge à livre ouvert. Donc c'est des choses qu'on a perdues.
Duby est comme le Moyen-Âge à livre ouvert.
Oui, il y a eu souvent de... Et moi qui ai été beaucoup au Népal, on disait que le Népal était comme l'Inde d'autrefois. Donc, chacun remonte où il peut, je dirais que...
L'imaginaire du féodalisme, sans doute, cette référence, non ?
Oui, j'aime pas beaucoup le mot féodalisme.
Ah, mais, non, mais c'est le titre du livre de Duby.
Oui, oui, c'est le livre de Duby, oui.
Justement.
Oui, oui, oui.
Oui, mais je pense que en disant ça, il s'intéressait à la fois au féodalisme, justement, c'est-à-dire aux relations économiques qui pouvaient exister, aux relations politiques qui pouvaient exister dans une Inde qui précédait l'indépendance, disons, où existaient encore des royaumes et où existait encore ce genre de structure de type féodal, où le roi était aussi le premier des sacrifiants, je dirais, où le roi était dans une relation aux religieux, qui était une relation de type très traditionnel, telle qu'on a pu la connaître chez nous, où en effet, il y avait une collaboration, disons, entre le roi et l'autel, pour le maintien de l'ordre du monde tel qu'il était à cette époque-là.
Oui, mais c'est aussi que chaque geste ou chaque événement là, de la vie quotidienne avait un sens religieux, était comprise dans le religieux.
Avait un sens religieux...
La philosophie est venue plus tard.
Bah, comme le dit Michael, peut-être que chez nous aussi, finalement, on peut imaginer que chacun des gestes que nous faisons a un sens qu'on peut peut-être pas qualifier de religieux, mais qui renvoie à autre chose que le geste même qu'on est en train de faire. Et dans l'hindouisme, comme dans beaucoup d'autres rituels, vous avez des gestes extrêmement ordinaires, et c'est la signification qu'on lui donne qui en fait un geste rituel. Alors il se trouve que dans l'Inde, peut-être, là aussi il faut faire des grandes différences, j'imagine, entre l'Inde des villages, l'Inde très traditionnelle, et une Inde hyper contemporaine, une Inde urbaine et une Inde très contemporaine, où vous n'avez plus ni la volonté, ni le temps, je dirais, ni le temps d'avoir une vie totalement ritualisée, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Ça prend beaucoup de temps, ce genre de choses.
Merci.
Merci.
Oui, bonsoir. Je remercie l'ensemble des intervenants pour leur exposé riche et passionnant. Là, j'ai quelque chose qui m'a frappé dans l'intervention de Madame Abigail. Sauf que vous avez parlé du cérémonial de la bar mitzvah, il me semble. Mais je suis quand même étonné que vous n'ayez pas dit un seul mot sur la circoncision, à moins que la question ne soit un sujet tabou pour les femmes.
Non, ce n'est pas du tout un sujet tabou, mais c'est tellement vaste le rituel dans le judaïsme. C'est vrai que j'ai parlé de très peu de choses. Vous aviez une question particulière par rapport
non,
à la circoncision ?
Non, parce que c'est quand même essentiel dans la vie du judaïsme, la circoncision, parce que je ne connais pas un juif qui ne fut pas circoncis, ou alors c'est un faux juif.
Je pourrais vous contredire.
Ah, pourquoi pas ? Allons-y.
Non, il y a au contraire un mouvement contemporain de mères juives en Israël aussi qui refusent la circoncision. Et il y a même une émission à la télé israélienne qui s'appelle, pour ceux qui veulent regarder, c'est disponible sur YouTube en anglais, The Jews Are Coming, donc les Juifs arrivent, où il y a un sketch particulier qui présente la circoncision comme une mutilation.
Comme une mutilation.
Voilà, oui. Donc c'est un sketch satirique et qui présente cet aspect-là qui paraît tout à fait consensuel, donc sous un angle complètement de la dérision. Donc c'est minoritaire, c'est vrai, mais ça existe. Donc on peut aussi...
Et on peut témoigner que durant les années 30, pardonnez-moi, mais un grand nombre de juifs en France n'étaient pas circoncis, et pourtant ils se considéraient comme juifs. Enfin, c'est une ponctuation, une question à la fois.
Et bon, après, on peut remonter le temps et voir l'origine de cette centralité, de cette grande importance de la circoncision dans le judaïsme. C'était à l'époque du Second Temple, où de nombreux juifs avaient le désir de s'héléniser et d'aller s'entraîner dans le gymnase, nu. Et donc, la circoncision était embêtante parce que l'esthétique grecque refusait ce pénis circoncis. Et il fallait absolument avoir un prépuce. Et donc, les juifs arrêtaient la circoncision. Et pour lutter contre ça, donc des courants plutôt zélés des juifs à cette époque-là ont mis la circoncision vraiment au centre du rituel. Donc c'est vraiment une question polémique qui est à l'origine de cette si grande centralité.
Voilà. Ok, je vous remercie.
Voilà. Merci beaucoup pour les interventions, ça donne quelques éclairages sur les rites traditionnels. Mais je voulais savoir ce que vous pensez du besoin de rites contemporains, par exemple, lors des attentats du 13 novembre, moi-même qui habite dans le quartier, j'ai ressenti le besoin d'aller justement allumer la bougie sur le lieu des attentats. Quand il y a eu consigne de mettre une bougie ou un cierge à la fenêtre, j'ai le fait, mon balcon, ça veut dire peut-être, ça veut peut-être rien dire, mais en même temps, c'est un besoin que j'avais d'une sorte d'apaisement. Donc, voilà, je voulais savoir ce que vous pensez de cette persistance du rite, même si c'est hors religion ou autre.
Je peux dire juste une seconde, parce que j'ai ressenti ce que vous avez ressenti. Il se trouve que j'habite ce quartier-là et que j'ai entendu les Kalachnikovs. Et j'ai été très frappé. Bon, samedi, les gens étaient un peu planqués. Mais le dimanche soir, tout le quartier, le 11e, 10e, était un lieu de pèlerinage. Et c'est tout à fait remarquable. Et alors, c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question. Je m'étais déjà beaucoup posé la question à l'endroit où Ahmed, je ne me souviens plus le nom de famille de ce policier qui a été descendu au moment de l'affaire Charlie. Et où effectivement l'endroit où il a été tué était devenu une espèce de tombe sans corps. C'était très frappant, effectivement, avec des écrits comme on trouve parfois au Japon, avec des arbres, avec des tas de choses écrites, et puis des bougies. Et ce qui m'a frappé le 15 novembre, le dimanche soir du 15 novembre, le silence qu'il y avait. Il y avait énormément de monde. On dit parfois que les religions sont des hérésies du silence, et je me suis dit que le rite fondamental était de temps en temps de faire silence. C'est une sorte de tzimtzum ou de shabbat par rapport au bruit, pour écouter autre chose. Et puis le feu, c'est-à-dire quelque chose qui, d'eau pure en grec, voilà, quelque chose de pur, d'incorruptible. Voilà, le silence, le feu, je me suis dit qu'il y a peut-être là une espèce de religiosité quasiment spontanée et naturelle qui s'est exprimée dans une société hyper moderne, mais j'en sais pas plus.
Non, mais je crois que c'est tout à fait le cas que là c'est une démarche rituelle que les gens font assez spontanément en puisant dans l'expérience culturelle des éléments funéraires, des éléments mémoriales. C'est très intéressant la façon que ça a évolué, parce que moi aussi je suis dans le même quartier, et ce qui était source de reconfort et qui était une sorte de réponse, une nécessité d'agir, est devenu avec les jours qui ont succédé comme une sorte de chape qui pesait lourd. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pu vérifier avec d'autres gens dans le quartier, il y avait une sensation de vivre dans une cimetière un tout petit peu. et que là, il y a eu ce moment un tout petit peu que les ethnologues parlent de liminal, sorte de, d'être, on ne sait pas très bien où on est, quoi. De flotter.
Les fleurs qui se flânent.
On repousse les choses. À l'évidence, il faudrait les évacuer, mais on n'ose pas toucher. Du coup, en fait, c'est très particulier cette sensation, et je crois que ça va ensemble. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans notre rituel, mais je trouve que c'est un bel exemple de cette sorte de ritualité spontanée qui se met en place sans problème, sans penser.
Juste par rapport à ce rituel donc finalement funéraire, ce qui est intéressant, si vous aviez trouvé ça pesant au bout de quelques temps, c'est peut-être en fait le caractère spontané de la chose qui du coup manque un peu de cadre. Du coup, c'est un rituel qui n'est pas cadré. Et ben, moi, ça me fait tout de suite penser du coup au rituel juif, au rituel funéraire juif, qui est tellement encadré. Il y a la semaine, le mois, l'année, et ensuite tous les ans. Et en fait, on va aller du plus lourd vers le plus léger au niveau de la commémoration des morts. C'est quelque chose qui est destiné à la fois à garder en mémoire, mais aussi à apaiser les vivants. Et c'est peut-être ça, ce cadre-là qui manque peut-être quand c'est spontané.
Il manque le bon rythme de la bonne chorégraphie dans le rituel comme ça spontané.
Oui, l'accélération des rythmes aujourd'hui entre sûrement en collusion avec la nécessité du rite. Une question ?
Justement, j'allais vous poser la question si l'homme est capable de vivre sans rite, à votre avis.
Capable de vivre sans rite.
Ou alors c'est un homme qui vit sans rite, c'est le...
De plein de choses, et sûrement ça aussi. Mais dans les faits, c'est rare qu'on voit une communauté humaine qui n'intègre pas des éléments cérémoniels dans sa vie.
Parce que ça existe déjà. Des communautés sans rite ? Ça existe, des communautés sans rite ?
Des communautés sans rite.
Vous avez dit c'est rare, se dire
bon,
que...
Voilà, c'est un petit peu le problème. Rite, c'est-à-dire... Et puis bon, là, on recommence...
Quand on manipule une bouteille d'eau comme ça.
Mais je crois que c'est assez rare. Il y a un cas très connu, les Zik de Turnbull. C'était des gens qui, grosso modo, occupaient un territoire au Kenya et qui était transformé dans un parc national, et eux, ils étaient obligés de bouger, de monter la montagne et de se réinstaller en haut de la montagne. Et là, il y avait beaucoup moins à manger, et en gros, c'est le tissu social qui se désagrège. Et une des premières choses qu'on voit, c'est une tentative d'instaurer une ritualisation cadran et qui n'a pas pu faire le boulot pour lequel on voulait le mobiliser. Effectivement, les rites disparaissent. Et donc, c'est un cas qui est cité comme un cas de désagrégation sociale qui s'accompagne avec une sorte de disparition progressive.
Mais en fait, je parlais plutôt de l'individu, quoi. Est-ce qu'un individu peut vivre sans rituel, sans symbole ? Est-ce que c'est possible, ou alors il n'est pas assez... fort ou pas assez libre, ou je ne sais
moi,
pas.
Je crois que les humains, ça fait partie de leur...
Un homme... Okay. Un être humain, pardon.
Oui, je voulais simplement dire que l'idée du rite comme un cadre à l'émotion est quelque chose de très très important, en fait. Et je trouve que, par exemple, l'évolution des cérémonies funéraires chez nous est un assez bon exemple de transformation qui se déritualise et où en fait l'individu est un peu livré à lui-même d'une certaine façon, et où on pourrait imaginer que la douleur ou le passage est presque plus difficile à supporter en l'absence de ritualisation, enfin ou avec la diminution des rituels.
Et qui entraîne maintenant un retour avec des efforts,
l'invention de nouveaux rites.
Ouais.
Nous ne parlons pas entre nous.
Allez, Ok. Oui, c'était juste pour faire une remarque par rapport à ce que monsieur disait juste devant. Si les hommes peuvent vivre sans rite, moi j'ai plutôt l'impression par rapport à la définition que nous donnait monsieur Ousmane tout à l'heure que c'est pas possible parce qu'au final, ça veut dire que toutes les habitudes en fait qu'on se crée, parce que quand dans notre vie, en fait, on a plein d'habitudes. Au final, ça peut être assimilé à des rites, puisque ces habitudes-là sont ce qui nous permet, en fait, de nous sentir stables, de nous sentir dans notre zone de confort, de nous sentir bien, au final. Donc, en fait, si on considère que toutes les habitudes qu'on se crée, en fait, au quotidien, ben, au final, ressemblent à des rites, ça voudrait dire que les hommes ne peuvent pas vivre sans rites.
Je dirais que de tout ce que nous avons dit et entendu aujourd'hui, on peut séparer le volet social du volet personnel dans le rituel. Enfin, je pense qu'on peut peut-être regarder ces deux aspects-là et il me semble que un rituel, c'est quelque chose qui régit la société. Donc, sans rituel, le cadre social est emmené à disparaître. Ensuite, où se trouve la limite entre des gestes répétés qu'on peut appeler des habitudes et un vrai rituel? Et aussi, donc, juste pour réévoquer la question du vocabulaire, en hébreu, par exemple, le mot rituel n'existe pas vraiment. On va parler de travail, de marche à suivre, de chemin, de loi, de coutume, mais jamais ce mot-là, précisément. Donc, à partir du moment où vous répétez les mêmes gestes à des moments précis de la journée, quand est-ce que ça devient un rituel ou est-ce que ça reste juste des gestes répétés? C'est une question.
En psychologie, enfin, c'est la doctrine de Papa Freud, en quelque sorte. Il y a une ressemblance entre la névrose et la religion. Donc, le névrosé, c'est celui qui répète un certain nombre de choses et qui a, en quelque sorte, des manifestations symptomatiques, que ce soit dans son corps ou dans ses manières d'être ou de faire. Et donc le rapport entre la névrose et la religion, c'est que précisément la religion est une organisation collective de la névrose qui permet précisément de juguler les névroses individuelles. Et donc là, il y a toujours ce problème de la frontière entre le moment où on est bouffé par ses habitudes, en quelque sorte, où on bascule du côté de la pathologie, et au contraire, le moment où précisément ce sont des ressources symboliques pour bien vivre, en quelque sorte. Mais je pense aussi à une anecdote qui m'avait beaucoup frappé, même un peu ému, je dois dire, et même troublé. Mais là, ça pose là des questions plus fondamentales sur le sacré ou sur ce qui est vraiment, je ne sais pas, digne d'un respect absolu. Ça fait longtemps que je m'occupe un peu de ces questions. Et ça fait. C'était il y a 25 ans. Et je conduisais une formation, c'était au 104, mais le 104, ce n'était pas un lieu super, super bon.
Mariste ou Édouard Balladur et François Mitterrand?
Non,
ont
pas du
fait
tout.
Leurs études.
Non, pas le 104 de la rue de Vaugirard, mais le 104 dans le nord de Paris, où il y avait des. C'est bien le 104.
Les anciens.
Voilà. C'était les pompes funèbres de la ville de Paris. Il y avait des forêts de cercueils. C'était très impressionnant. Et puis en bas, il y avait des immenses écuries. Là, il n'y avait pas les chevaux, hein, mais il y avait des bagnoles. Peu importe. Et donc, je conduisais une formation pour des personnels, donc des pompes funèbres et des cimetières. Et il y avait dans l'équipe des formateurs, notamment des religieux, etc., etc. Et pour réfléchir sur les rites funéraires, etc., et tous les problèmes qui se posent dans une grande ville. Parce que grosso modo, la question du deuil dans une société traditionnelle, où il n'y a pas encore si longtemps dans nos villages, c'est que le deuil est assumé collectivement. Et là aussi, il y a une chorégraphie qui fait que la personne endeuillée, c'est la star. C'est pas deuil et mélancolie, comme dirait toujours Freud. Et donc, le deuil est une compensation non seulement psychologique, mais encore sociale, qui fait que la personne endeuillée est au centre du cérémoniel, etc. etc., etc. Donc tout ça est porté Mais dans les villes où les gens sont justement désagrégés les uns par rapport aux autres, et dans une ville comme Paris, il y a 3-4 personnes qui meurent par jour et qui n'ont aucune famille, qui sont morts par overdose, bon, etc., dans des conditions pénibles. Et donc, les personnels des pompes funèbres ont cette chose terrible à faire d'incinérer des gens quand il n'y a personne, en quelque sorte. Et donc, les gars qui faisaient ça, le fonctionnaire de base qui fait fonctionner le truc, enfin bon, voilà. Et puis, donc on parle, etc., et cette espèce d'échange, c'est assez extraordinaire. Et finalement, ils étaient devant des spécialistes ou des religieux, et eux, en fait, c'était des simples êtres humains et des créateurs de rites, en quelque sorte. Et les gars disaient qu'ils ne pouvaient pas balancer les cendres n'importe comment. Et donc, ils avaient inventé une espèce de petite pelouse où ils faisaient une sorte de geste auguste du semeur. C'est extraordinaire. Et c'était des gens tout simples, tout simples. Ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. C'est un très bel exemple, je trouve, du fait que l'être humain, quelles que soient les croyances que l'on a, que l'on n'a pas, etc., un être humain ne fait pas n'importe quoi. Voilà.
C'est peut-être juste pour ajouter, c'est aussi le cas dans les situations de danger important. C'est-à-dire qu'en fait, on agit en créant des dispositifs qui rendent la situation plus maniable. C'est typique des gens qui travaillent dans les centrales nucléaires. Il y a toute une ritualisation du badge et de tout comme ça, où on se dirait, oui, c'est simple, c'est un truc qui est simplement indicatif du niveau de... Non. Est-ce que je le remplace? Est-ce que je le laisse passer d'un certain moment? Et puis, il y a tout un travail... Des actions ritualisées, et puis bon, des cas des marins, c'est bien connu, des situations en danger, des gens qui travaillent dans la mine. Il y a plein de sortes de lieux de ritualisation spontanée. Effectivement, on le fait pas n'importe quoi.
Une question.
Oui, moi j'avais une question un petit peu qui rejoint ce qu'on vient de dire. C'est comment un rituel est remplacé par un autre. En fait, je m'intéresse plus précisément aux adolescents. Donc je sais à travers notamment les articles de M. Haussmann qu'il y a une phase traumatique donc dans le rituel. Et donc moi, j'ai une hypothèse dans ma recherche que les adolescents qui n'ont pas subi de rituel dans leur pays d'origine cherchent à accomplir ce rituel dans la France à travers un comportement justement qui peut ressembler au comportement traumatique ou passage à l'acte, telle la dépendance ou des actes de violence, quoi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu?
C'est drôle parce qu'on s'est dit avant qu'il n'y avait aucun d'entre nous qui a parlé d'initiation. Mais voilà que ça vient. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, cette idée des adolescents dans notre société éprouveraient une sorte de besoin de se mettre en position de danger. Comme une sorte de fonction ordalique, en gros, que si je passe, ça va. Mais ce n'est pas à moi de déterminer mon destin. Et c'est bon. Je crois qu'effectivement, il y a des dispositifs de ce genre. Les difficultés, c'est qu'effectivement, la création un peu, c'est très créative que les individus font ça, ou même des groupuscules, mais parfois, ce n'est pas toujours bien fait. Et que, comme on parlait de l'absence de cadre qui fait qu'il y a un déroulement particulier. Par exemple, dans toutes les questions initiatiques, en fait, c'est très important qu'il y ait des non-initiés qui participent en tant que non-initiés. C'est typiquement quand les jeunes garçons sont initiés pour devenir hommes, il faut qu'il y ait des femmes qui ne vont pas être initiées, mais qui assistent, mais de loin. De façon à que voir et pas entendre, ou que entendre et pas voir, ou voir, mais de très loin, ce genre de... Et ça, cette sorte de triangulation, par exemple, impose une certaine forme pour ces démarches, et très souvent dans des initiatives qui ressortent de quelque chose qui est ressenti pour les gens qui veulent mettre en acte quelque chose, ce n'est pas bien, aussi bien formé que ça pourrait être, et du coup, ça peut être côté destructeur. Je crois que c'est important, juste sur ces questions, de rappeler qu'il n'y a rien en soi dans le rituel qui est bon. il y a plein de ritualisations qui ont été mobilisées à des fins totalement asociales, désastreuses, pour écraser des gens, des éléments de dégradation ritualisés qui prennent d'autant plus de force qu'elles sont ritualisées. Et du coup, je crois que le recours au rituel n'est pas en soi quelque chose qui puisse garantir une issue nécessairement positive. En fait.
Si je peux ajouter juste, préciser juste quelque chose par rapport à la question, c'est que je parlais justement de, peut-être dans plus ma recherche, je comprends votre point de vue, d'enfants particuliers qui ont vraiment besoin d'initiation et qui se retrouvent dans un autre pays ou un autre environnement où ils n'ont pas la chance d'avoir donc, le rituel.
Aller plus loin ou plus profond, c'est-à-dire que la question du rite et de la question de la nécessité du rite ne peut pas ne pas poser la question de l'humanité de l'homme, qui est une question proprement philosophique. Je disais qu'au fond, un être humain se caractérise par le fait qu'il ne fait pas n'importe quoi. Mais je ne voulais pas dire du tout par là que les animaux font n'importe quoi. Mais les animaux sont comme tenus par cette règle naturelle qu'on appelle l'instinct. Et donc le propre des hommes, c'est que ce sont des animaux ratés et des dieux ratés à la fois. L'animal est le dieu, si j'ose dire, et dans son être, est relativement stable dans son être. Et on trouve déjà chez Aristote cette idée que le propre de l'homme, seul un homme peut se conduire d'une manière bestiale, jamais les animaux. Donc l'homme, c'est cet animal qui peut s'élever ou chuter. Et donc, l'humanité de l'homme, c'est un mélange instable. Et c'est parce que c'est un mélange instable que l'humanité a besoin d'être instituée en l'homme. Et elle ne peut pas ne pas être instituée par quelque rituel, quel qu'il soit. Rituel que l'on espère riche de sens, sinon c'est du ritualisme. Et donc moi je crois que de ce point de vue-là, c'est très clair. Et c'est ce qui fait, à mon avis, la définition d'une religion, c'est que précisément, ça ne s'invente pas, une religion. À chaque fois qu'on essaye d'inventer une religion, ça merde. Pourquoi ? Parce que précisément, il y a toujours de nouvelles religions qui naissent ou un nouveau rapport à la religion, mais c'est toujours par rapport à quelque chose qui est reçu, en quelque sorte. On ne peut jamais fonder ex nihilo une religion. Ça ne marche jamais. Et donc, je pense que là, il y a vraiment une relation très profonde entre l'humanité de l'homme dans l'histoire et le rite, qui a une certaine vitalité et une certaine évolution, mais qui doit toujours venir de loin pour que ça soit vivant. Enfin, c'est du moins ce que je crois.
Bonjour, je voulais rebondir à ce qu'a dit la dame sur le bien-être du rite. La référence du rite et le bien-être, en fait, son bien-être ou le rite est-il un bien-être ou pas ? C'était le référent par rapport au bien.
Le rite une source de bien-être alors ?
Est-il ? Le rite est-il une source de bien-être ?
Vous voulez dire est-ce que le rite est toujours une source de bien-être ?
Oui, non. Madame a posé une question tout à l'heure sur le rite et son fonctionnement. Est-ce que c'est pour bien ? Est-ce que c'est bien ? Je pense que la question se retournerait sur le bien-être. Est-ce que le rite est un bien-être, est une source de bien-être ?
Moi, je crois que c'est autant un bien-être, par exemple, que le jeu. Alors, le jeu, c'est un bien-être. C'est quelque chose qui apporte quelque chose, mais on sait très bien que le jeu peut être une situation très dure, très difficile, très cruelle. Je crois qu'il y a plein, encore une fois, je crois qu'il y a plein de rituels qui sont au service de relations de pouvoir et puis qui sont souvent ambigus. Prenons le bizutage scolaire. C'est un rite élitiste clair. Pour certaines personnes, ils trouvent ça épouvantable, d'autres personnes trouvent ça plutôt bien. En prenant l'un ou l'autre position, il se positionne clairement d'un côté ou d'un autre des lignes d'élitisme. Je crois qu'il n'y a pas une réponse simple comme ça, c'est-à-dire que c'est une modalité qui, qui capte l'imagination et le corps des gens et qui permet à ce qu'ils se situent vis-à-vis d'autres d'une certaine façon. Donc je le vois analogue un petit peu au jeu. C'est une autre façon de faire. Le jeu est très, très différent du rituel, mais oui, les humains, ils ont le jeu à leur disposition et ils ont le rituel à leur disposition. Mais ça n'en fait pas une qualité nécessairement positive.
Oui, le rituel peut être une source d'angoisse, même si vous vous situez à l'intérieur d'un rite, et non pas peut-être en opposant comme le bizutage, mais imaginez que vous allez dans un rite de désenvoûtement, pour parler de sorcellerie, vous allez dans le Berry et vous faites un rite de désenvoûtement, ben vous êtes hyper angoissé à l'idée de mal le faire, par exemple. Si vous ne faites pas le rite comme il convient, les conséquences peuvent être très graves à tous les niveaux, si vous voulez. Donc, c'est pas forcément du tout un recours. Je pense que le rite est neutre sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'il peut être source de bien-être comme source d'angoisse.
Une dernière question ?
Je rebondis sur l'observation du camarade concernant le bien-être et le rite. Mais auparavant, je dois remercier, écoutez-moi, Philippe Godin d'avoir répondu à l'avance à la question que je voulais poser à M. Haussmann. Bon, merci. En évoquant l'aspect freudien ou simplement analytique du rite, disons l'aspect pathologique qui est sous-jacent au rite. Et là-dessus, Monsieur Haussmann nous a fait une brillante illustration sur la gestuelle, bon, par exemple, en l'occurrence avec l'eau et la bouteille. Mais là-dedans, de nos jours, à notre époque, malheureusement, c'est peut-être un signe des temps, tout le monde a un côté obsessionnel qui cherche à évacuer. Manière d'exorciser le mal de vivre. Et là, on tombe carrément dans le chapitre sur le registre psychanalytique. Et auquel cas, on cherche donc, c'est par le biais d'un monologue qui n'est pas intérieur, c'est un monologue extériorisé, ou si vous préférez, une catharsis, une manière donc de guérir, de se guérir soi-même, ou alors... Donc c'est une thérapie, ou alors si on peut le voir, c'est la même chose sur un autre plan, ou une sorte d'exorcisme magique pour atteindre le bien-être dont parlait le camarade. Voilà, merci.
Eh bien, merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup.
Donc, un tout petit mot final pour remercier très chaleureusement nos 5 participants, donc Frédéric Casatsu, Michael Haussmann, Véronique Bouillet, Abigail Ohaï, et Philippe Godin, voilà, et surtout les deux derniers de s'être prêtés au jeu comme ça, au pied levé, de venir participer à cette table ronde. Je vous invite à venir compléter donc le débat de ce soir par une consultation des ouvrages sélectionnés par les collègues de la bibliothèque dans un salon bibliographique très riche qui complète donc le cycle de conférences. Je vous invite à retrouver cette conférence sur la web télé de notre site, là, puisque la conférence a été filmée ainsi que toutes les autres. Donc vous aurez comme ça un corpus constitué. Et je vous donne rendez-vous le 20 juin pour notre dernière table ronde sur la loi que Philippe Godin modérera et voilà, qui viendra clore ce site. Merci à tous et merci à nos techniciens. Bonsoir.